toute la beauté, non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. La saveur des beautés qui passe, souvent le mieux qu'elle fait. Elle ravage les palais et ne laisse que des crevasses. Aussi pour nulle créature, oh non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Non, jamais le cœur généreux ne veut aisément s'arrêter.
Vous écoutez à l'École de l'Oraison, le balado des écoles carmélitaines d'Oraison du Québec, saison 2025-2026, intitulé « L'Oraison, racines, fleurs et fruits », troisième épisode, novembre 2025, intitulé « Pour quelques fleurs ». Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'Oraison sur le site www.lecarmel.org, section frères, onglet activités. Bonne écoute.
Il défaille, celui dont l'amour est brûlure, a le dégoût de ce qu'il voit. Il désire un je ne sais quoi, qu'on trouve par aventure.
J'ai intitulé cette troisième rencontre de notre école d'Oraison 2025-2026 pour quelques fleurs. Un titre qui vaut ce qu'il vaut et qui me vient finalement d'une relecture que j'ai faite et que je voudrais refaire ce soir avec vous du livre de la vie de Thérèse d'Avila une fois de plus, mais précisément grâce au thème que nous suivons depuis... maintenant plusieurs rencontres, j'allais dire à la faveur de ce thème, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être une dimension que je n'avais, du moins pour ce qui me concerne, jamais suffisamment perçue. Alors, je me situe au chapitre 11e d'abord du livre de la vie, pour ceux et celles qui auraient le goût, la curiosité d'aller revoir des années... Dans les années passées, on a déjà évoqué ce passage, je vous le relis, il est magnifique. Hein. Je vais donc parler maintenant de ceux qui commencent à être les serviteurs de l'amour. Nous ne sommes rien d'autre, ce me semble, lorsque nous décidons de suivre sur ce chemin de l'oraison celui qui nous a tant aimé. C'est là une si haute dignité que j'éprouve à y penser, une joie extraordinaire, la peur servile s'élimine bientôt si nous nous comportons comme nous le devons dans ce premier état. Ça, c'est son ouverture qui est absolument magnifique et puis qui du reste décrit non seulement ce que Thérèse a commencé de concevoir avec ses compagnes hein, à la fin des années 1550 dans cette fameuse cellule du monastère de l'Incarnation. Lorsque nous étions en voyage au mois de mai passé, nous étions à quelques mètres seulement de cette fameuse cellule. Donc non seulement ce que Thérèse conçoit de la vocation de celles qui vont vivre dans ce nouveau monastère, mais Thérèse ne parle pas que des carmélites, elle parle bien de tous ceux qui commencent à être les serviteurs de l'amour, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de suivre ce chemin de l'oraison. Elle a déjà des amis qui ne sont pas des carmélites, hein, des hommes et des femmes, des religieux et des laïcs, déjà à son époque, qui font oraison. Magnifique. Or, elle continue ainsi. Ô Seigneur de mon âme, mon bien, pourquoi n'avez-vous pas voulu que l'âme qui décide de vous aimer et s'efforce de tout quitter afin de mieux se vouer à cet amour de Dieu, ait immédiatement la jouissance de s'élever jusqu'à cet amour parfait? Je m'exprime mal. J'aurais dû dire en gémissant que c'est nous qui ne le voulons pas. Car c'est uniquement par notre faute que nous ne jouissons pas tout de suite d'une si haute dignité. Lorsqu'on arrive à ressentir parfaitement ce véritable amour de Dieu, il apporte avec lui tous les biens. Nous nous prisons si cher, nous sommes si lents à nous donner totalement à Dieu que devant la volonté de Sa Majesté de ne pas nous laisser jouir d'une chose si précieuse sans payer un grand prix, nous hésitons à nous y disposer. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Je note parce que ce que je viens de lire correspond avec quelque chose... dont on va forcément... oui, je vais passer au travers rapidement, mais je voulais le noter. La question de tout lui donner ne concerne pas d'abord, encore une fois, la vocation des moniales carmélites qui ont tout donné. La preuve, c'est qu'elles sont dans le cloître. C'est pas cela. Elle parle bien des âmes d'oraison, donc de celles qui sont attirées de l'intérieur par une expérience de Dieu. Alors, un petit peu plus loin dans le texte, je ne vais pas tout vous lire, Thérèse est impressionnée par les saints qui ont tout donné d'un coup. Elle tourne un petit peu autour de la même idée, elle y revient une deuxième fois, et elle se demande pourquoi nous ne faisons pas autant. Et elle dit la chose suivante, que je vais traduire parce que je l'ai sous les yeux en espagnol, je ne suis pas allé voir les traductions, mais elles sont forcément toutes très bien. Mais à ce qu'il paraît, nous lui donnons... Pardon, non, c'est pas ça. Mais il nous semble que nous lui donnons tout, et le fait est que nous offrons à Dieu la rente ou les fruits, et que nous gardons la racine en possession. Là, c'est moi qui traduis, c'est pas forcément la plus belle traduction, mais hein, il est un fait que nous offrons à Dieu la rente, le fruit, et que nous nous gardons la racine en possession. Et ça, pour elle, ça va être un petit peu le pivot de ce qu'elle va dire de la pauvreté. Alors, à ce point de l'intervention de ce soir, certaines pourraient dire, où est-ce qu'il nous embarque? On était supposé parler de racines, fleurs et fruits, mais en plus aujourd'hui ça devait être des fleurs, plutôt sympathique. Puis là, on est plutôt au niveau de la racine, hein, on est un petit peu resté dans le sous-sol. Parce que là où je vous entraîne ce soir, et on y reviendra, c'est que Thérèse s'est intéressée à la question des vertus, au sens très large. Il y a beaucoup de vertus chez elle, il y a plein de choses qui sont vertus. Tout à l'heure, je parcourais la concordance des termes de Thérèse d'Avila. Le terme virtu sort à peu près 350 fois sous sa plume. Pas rien. Mais alors, pour vouloir dire plein de choses, pas n'importe quoi, mais beaucoup de choses. En revanche, lorsqu'elle va écrire Le chemin de perfection, elle va retenir trois vertus. Le détachement, l'humilité, et l'amour des autres. Le détachement, l'humilité et l'amour des autres. Et pour chacune de ce qu'elle appelle vertu, on pourrait du reste discuter. Est-ce que, par exemple, l'amour est une vertu? On pourrait discuter. En fait, elle est en train de dire, regardez, c'est ce grâce à quoi on va avancer dans notre vie commune au monastère Saint-Joseph, puis dans le fond, dans la vie d'oraison. C'est intéressant parce que l'un de nos anciens généraux avait fait justement toute une conférence en s'appuyant sur une intervention, je l'ai déjà cité dans un groupe, ce que je vais dire là, une intervention d'un pape qui, à l'occasion d'un chapitre général de notre ordre, des Carmes des Chaux, on parle d'un pape du début du siècle passé, hein, avait ressorti trois vertus, que j'ai oubliées du reste, mais qui étaient des vertus très très combatives, très ascétiques, très humaines finalement, très maîtrisantes, très maîtrisables, pas toujours très maîtrisées. Et le général qui... Loin de lui l'idée de s'opposer à l'autorité pontificale, même si elle est ancienne, disait, bah, c'est bien, mais sauf que ce pape nous connaît mal, parce que Thérèse, elle n'a jamais parlé de ça. Thérèse, elle a parlé d'humilité, de détachement et d'amour des autres. Or, la première chose dont elle parle, c'est pas le détachement comme tel, c'est la pauvreté. Et je résume un petit peu, mais ça me paraît important. Je vais tâcher d'y revenir à la fin de ce que je vous dis ce soir. Elle voit la pauvreté en rapport d'opposition, avec cette façon qu'on a de capter nos amis pour ce qu'ils nous donnent, incluant Dieu. Cette façon que nous avons de tisser relations et de nous assurer que nos amis... nous pourvoirons dans ce dont nous avons besoin, que ce soit matériel ou immatériel, hein, y compris la chaleur, l'amitié, la proximité, la reconnaissance, le tout ce qu'on veut, qui sont pas des choses mauvaises, détestables. Hein, elle n'est pas en train d'évoquer, pas d'abord, du moins, la manipulation qu'on peut faire de ses amis pour tâcher d'extorquer. Des biens matériels ou des biens non matériels, mais en vue de la vie matérielle. Il reste que lorsqu'elle parle de la pauvreté, elle a un petit peu ça en tête, curieusement. Parce que le fond de la question pour elle, c'est pas que C'est pas la pauvreté au sens de la non-possession, elle va parler de ça en différentes occasions dans ses écrits, mais c'est pas ça ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'expérience que nous faisons des relations qui nous font vivre et la peur que nous avons que ces relations nous manquent. Et foncièrement, l'expérience que nous faisons que la relation à Dieu, elle fait vivre, elle nous fait vivre, et qu'on a peur qu'elle nous manque. Alors, cette peur, elle est, j'allais dire, elle est normale, elle est là. Elle est là, ça ne sert à rien de la nier, elle est là. Nous avons peur de perdre Dieu, tout comme nous avons peur de perdre nos amis, notre conjoint, nos frères et sœurs. C'est normal. Il y a quelque chose de normal là-dedans. Mais ce que Thérèse vient toucher, c'est justement, étant mesuré la force de cette relation et la peur que nous avons de la perdre, comment précisément acceptons-nous cette relation sans chercher à la capter, comme je disais. Et là, elle pense entre autres à Dieu lui-même, à la relation que nous avons avec Dieu. Alors, là, je m'éloigne un petit peu de Thérèse, ou plutôt je relis Thérèse avec Thérèse, en quelque sorte, c'est-à-dire je relis la personne de Thérèse grâce à ce qu'elle a écrit. C'est toujours très intéressant de faire ça, parce que les auteurs écrivent beaucoup, disent beaucoup plus que ce qu'ils pensent écrire. Derrière, il y a toute une dimension psychologique d'abord, hein, au premier niveau, mais au travers de cette dimension psychologique, hein, la peur de perdre les relations qui nous font vivre, non pas plus profond, mais au travers de cela, il y a une dimension qui est foncièrement spirituelle. Parce que il est un fait que notre relation à Dieu, pour chacun, chacune d'entre nous, vient toucher, vient modifier en profondeur notre être. On ne sait pas exactement comment. Il y a des fois, c'est majeur, c'est manifeste, c'est évident. Mais la plupart du temps, et pour revenir à notre thème, la plupart du temps, c'est dans l'imperceptible de la croissance du végétal, qui lui a l'hiver et l'été, le printemps et l'automne, mais c'est quand même des saisons qui s'étalent sur plusieurs mois, hein. C'est pas la rapidité de l'émotion, c'est pas la mobilité du monde animal dans lequel nous sommes inclus, je vous le rappelle. Notre relation à Dieu, elle vient faire quelque chose dans notre psychologie, c'est-à-dire dans notre psyché, dans notre constitution intérieure, dans ce par quoi nous sommes authentiquement des êtres humains. Ce qui ne veut pas dire que nous faisons tout avec humanité, et avec bon sens, et avec droiture, mais il reste que même les pires des choses que nous les faisons comme des êtres humains, pas comme autre chose. Et j'ajoute une autre chose là-dedans. Dans cette relation à Dieu, c'est que cette relation avec Dieu, hein, si c'est une relation, c'est qu'il y a deux êtres qui sont engagés dedans, sinon ce n'est pas une relation, c'est authentiquement. Cette relation à Dieu, elle vient modifier, elle vient relever, elle vient guérir, elle vient accompagner bien des choses en nous, y compris notre capacité à vivre seul. Et ça, je ne vais pas le développer davantage, mais il s'avère que j'avais réfléchi à cela. J'ai ce que je vous propose ce soir, je l'ai médité il y a déjà plusieurs jours, et depuis, il s'avère que j'ai eu une conversation qui m'a fait toucher du doigt cette fameuse question du vivre seul. Enfin, vivre seul, c'est mal dit. Parce que vivre seul, ça fait tout de suite penser à une solitude, un isolement. Mais de vivre à partir de ses propres racines, de vivre à partir de soi-même, c'est vite dit, c'est trop vite dit. En psychologie, c'est quelque chose dont on sait qu'il faut l'évoquer avec prudence, parce que précisément, bien des personnes se sentent incapables de vivre à partir d'elles-mêmes. Et puis dans l'ontogenèse, c'est-à-dire dans la façon dont notre être se constitue, se développe au travers des périodes, au travers des âges, nous pouvons prendre conscience de grands manques en nous. Nous pouvons prendre conscience de de difficultés récurrentes, de souffrances, de blessures, que sais-je, qui fait qu'on a toujours fonctionné avec des béquilles. Donc il faut être prudent dans ce qu'on dit là. Ce qui m'intéresse, et là encore je regarde Thérèse, ce qui m'intéresse, c'est que la personne même de Thérèse, qui dans son adolescence semblait pourvue d'à peu près toutes les qualités qui permettent à une jeune fille de bonne famille avilanaise de briller et puis de surpasser ses rivales et de s'attirer les bonnes grâces de toute la gent masculine, cette Thérèse, elle a réalisé et elle l'a vécu particulièrement pendant un peu plus de 20 ans, avant même de rentrer au Carmel. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle est rentrée au Carmel. Puis jusqu'en 1554, elle a pris conscience d'immenses abîmes dans son être. Et entre autres, elle en prend conscience, mais elle en raconte encore plus que ce dont elle a conscience, entre autres d'une difficulté à vivre à partir d'elle-même, donc d'une certaine tendance à très vite s'appuyer, se donner, s'ouvrir à des personnes qui passent dans sa vie, dont certaines, c'est pas sur elles qu'il faut s'appuyer. C'est pas sur elles qu'il faut s'appuyer. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de la vie, elle y reviendra à d'autres occasions, elle dit très vite et très tôt, attention, lorsqu'on commence de faire oraison, il y a des fruits, il y a bien des choses qui nous viennent, et ces fruits, il faut les prendre au sens très large, c'est pas seulement des choses, des fruits pour nous-mêmes, mais c'est ne serait-ce qu'un regard nouveau et plus profond sur les êtres, sur le monde et sur Dieu, c'est un fait. Cela, on a justement tendance à le prendre comme des fruits à notre disposition dans une corbeille sous nos yeux. Tant ce qui nous arrive, ce qui lui est arrivé à Thérèse, est une révélation, un changement, les yeux s'ouvrent, des choses apparaissent à nous, une authentique valeur des choses, un enthousiasme aussi pour ce Dieu qui nous appelle et qui nous fait vivre. Elle dit certes, mais attention, parce que ces fruits, on aurait tort, et elle parle d'expérience, on aurait tort de trop vite vouloir les partager. Alors, elle s'explique pas tant que ça là-dessus, et à cause de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle dit plus loin, j'explicite, il faudrait justement pas s'imaginer que ces fruits sont des choses repérables, par exemple des belles idées, des beaux sentiments. Elle n'est pas en train de parler de ce qui nous vient à l'oraison, bien que ça corresponde effectivement à ces états d'oraison où il y a aussi tout un aspect de plus grande connaissance de Dieu, des lumières, comme on dit, ou des grâces qui nous viennent à l'oraison. C'est fort bien, c'est très beau, hein, c'est magnifique. Mais c'est pas de cela dont elle parle foncièrement. Et puis surtout, ce qui est en jeu, ce que Thérèse vise, c'est cette lente métamorphose de la personne que nous sommes, qui, dans cette relation à Dieu, est touchée par Dieu, découvre à la fois des abîmes en elle, ces abîmes pouvant être, alors là j'anticipe un peu sur Jean de la Croix, des cavernes qui finalement se remplissent de lumière, ça c'est dans le Cantique spirituel pour ceux qui connaissent, les profondes cavernes du sentiment, comme traduit Pierre Eliane, donc des béances en quelque sorte en nous qui peuvent être inquiétantes, mais que par la suite Dieu va restituer à leur beauté, à leur valeur profonde, dans tout ce qui se dégage, dans toute cette transformation qui finalement, d'une façon ou d'une autre, est un petit peu causée par cette relation à Dieu et particulièrement par l'oraison. Dans tout cela, ce qui est en jeu, c'est un vivre à partir de soi-même, à partir de l'être que Dieu contribue à faire naître, à se dégager. Et il est des moments dans notre vie, pas forcément seulement au début, où c'est un peu le maelstrom à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous risquons de perdre de vue que la chose la plus importante, c'est que Dieu nous aide à vivre vraiment à partir de notre propre être. Pour donner un petit peu un autre éclairage à ce que je viens d'évoquer, j'avance un petit peu dans le livre de la vie, c'est ce que je vous avais annoncé, toujours dans le chapitre 11, ce fameux paragraphe qui est le début de plusieurs chapitres où elle va filer l'image est la suivante, une comparaison. Je vais devoir user d'une comparaison. Le débutant vraiment au sens de celui qui commence, hein, mais c'est un texte que vous connaissez par cœur, mais on va le lire autrement. Le débutant doit concevoir que le terrain où il entreprend de cultiver un verger où se délectera le Seigneur est très ingrat, plein de très mauvaises herbes. Sa Majesté arrache les mauvaises herbes et doit planter les bonnes. Sachons que cela est déjà fait quand une âme décide de faire oraison et qu'elle a commencé. Avec l'aide de Dieu, nous devons tâcher, en bon jardinier, de faire pousser ces plantes, prendre soin de les arroser pour qu'elles ne meurent point, mais donner un jour des fleurs dont le parfum réjouira notre Seigneur. Il viendra donc souvent se délecter dans ce jardin et se réjouir au milieu de ses vertus. Souvent, et je m'inclus parce que c'est ce que je faisais, et c'est vrai, hein, c'est ce que je faisais jusqu'à récemment, mais souvent on utilise ce passage et tout ce qui s'ensuit, les fameuses quatre façons d'arroser le jardin. Hein, pour ceux et celles qui connaissent la chapelle du couvent des Carmes à Trois-Rivières, nous en avons une très belle icône représentant Thérèse avec en médaillon les quatre façons d'arroser le jardin. Jésus et l'âme, chacun appuyé sur sa bêche, c'est assez exceptionnel. Cependant, la raison profonde de tout ça n'est pas directement de cultiver la présence de Dieu. Je dis quelque chose qui est un peu étonnant, mais si on est bien attentif non seulement au texte, mais justement à ce que Thérèse dit au long, non seulement du livre de la vie, mais je pense surtout du chemin de perfection, concrètement, ce qui est devant nous lorsqu'on fait oraison, c'est pas tant la présence de Dieu que le jardin où, éventuellement, il vient à se rendre présent. Éventuellement, pas au sens anglais, hein, à la fin de l'histoire, mais éventuellement au sens français, c'est-à-dire possiblement. Mais ce que je soulignais, c'est que ce qui nous occupe, et pas seulement celui ou celle qui commence, pas seulement le débutant et la débutante, mais chacun, chacune d'entre nous, ce qui nous occupe, c'est le jardin que nous sommes et c'est à lui que nous travaillons. C'est lui que nous arrosons. C'est ça ce qu'on peut faire. Et lorsque beaucoup plus tard, Thérèse va dire, bah oui, il y a des fois on plonge le seau au fond du puits, puis on remonte rien. Et puis ce qui est curieux, c'est que Dieu est capable, elle dit ça dans la même phrase, Dieu est capable de faire quand même pousser les fleurs parce qu'il est capable de faire venir l'eau autrement. L'eau étant finalement l'eau de la grâce. Il reste que ce qui nous occupe constamment, ce qui est en quelque sorte devant nous, c'est ce jardin. Or, ce jardin, c'est nous-mêmes. On l'a déjà souligné plus d'une fois, de même que pour le livre des demeures, le château, c'est à la fois, nous sommes à la fois le château et celui qui déambule dans le château, celui, celle qui déambule dans le château. C'est pareil pour le jardin. Nous sommes le jardin et celui qui est préposé à aider le jardinier en chef, qui est quand même Jésus, c'est pas nous, à s'occuper du jardin. Ce que je veux faire sentir, c'est que, au travers de cela, on recale un peu les choses. Je vais dire quelque chose d'un petit peu gros, mais en fait, plus ça va et plus je pense que c'est pas si gros que ça. Mais je vais un petit peu l'expliquer. L'oraison, c'est pas fait pour jouir de la présence de Dieu. L'oraison, c'est pour la transformation, qui n'est pas forcément sentie. Quand je dis cela, finalement, surtout ceux et celles d'entre vous qui cheminaient depuis un bon bout de temps, pas forcément le Carmel est pas le seul à le dire, mais le Carmel le dit bien, avec Thérèse ou Jean de la Croix, avec la petite Thérèse aussi, hein, la lente conversion et la lente transformation inachevée du reste à sa mort de la petite Thérèse va dans ce sens-là. Ce qui est en jeu, c'est d'accepter et de contribuer à cette lente conversion, à cette lente transformation de mon existence. C'est ça, c'est à cela que nous travaillons dans l'oraison. Nous n'y travaillons pas directement, ça n'est pas du développement personnel. C'est pas nous qui nous fixons des objectifs, puis des exercices d'ordre psychologique pour tâcher d'atteindre lesdits objectifs, ce qui est tout à fait respectable, mais c'est très bien, mais c'est pas cela. L'affaire. Précisément, c'est peut-être parce que si on opérait comme ça, on aurait quelques succès et pas mal d'échecs, que le Seigneur nous rejoint autrement en nous proposant de s'y mettre lui. Alors il est vrai que tout part de sa présence, tout part d'une expérience de rencontre avec lui, et les choses s'entretiennent parce que lui nous fait sentir au moment où cela lui semble bon, au moment où cela lui semble correspondre à son intention profonde, de nous rejoindre, d'être avec nous. Il nous fait sentir sa présence. Donc, c'est quelque chose par quoi Dieu, en quelque sorte, nous relance sur ce chemin. Mais ce que Dieu opère foncièrement, c'est un lent, précis, profond travail sur notre être. Et pas de notre point de vue à nous, encore une fois. De notre point de vue à nous, et je suis étant très à l'aise avec la psychologie, c'est certainement pas moi qui vais dire le contraire, de notre point de vue à nous, lorsque des choses se présentent à nous, y compris dans la découverte, je l'évoquais plus tôt, de failles, de béances, de cicatrices mal refermées, nous avons besoin d'une thérapie d'ordre psychologique. Mais dans la thérapie d'ordre psychologique, c'est un thérapeute ou une thérapeute, et c'est moi, et puis bah, on y va, vaille que vaille, tel qu'on est capable de se comprendre soi-même, avec tous les outils que peuvent donner les différentes approches psychologiques et qui sont précieux. Mais d'entrée de jeu, lui, tout en nous laissant faire ça, et peut-être même que parfois il nous inspire d'avoir recours à ce qui est humainement possible, de même que je pense qu'il nous inspire d'avoir recours à un kiné quand on se foule la cheville. Je dis ça parce qu'il y a 2 mois, je ne l'ai pas fait, puis j'ai toujours mal à la cheville. C'est pas très intelligent. Il reste que lui, il opère d'une autre manière, et il opère d'une autre manière aussi pour cette raison que il ne voit pas seulement la blessure et ce qui devrait avoir lieu et place là où est la blessure. Il voit plus profond et plus loin. Il voit la totalité de notre être. Lui seul peut voir. Cela lui seul peut connaître. Cela lui seul peut désirer vraiment notre être comme tel. C'est là-dessus que j'appuie, parce qu'il me semble que, du moins c'est ce que l'exercice que j'ai fait il y a quelques jours, à relire ces chapitres du livre de la vie, on mesure que tout est fait, y compris ces différentes façons d'arroser. Et on pourrait basculer du côté demeure, on a ces différentes façons de cheminer dans les demeures, dans le château, de s'habituer à ces différentes façons d'y être, et les différentes façons qu'a Dieu d'y être avec nous. Il reste que le point, c'est bien ce fameux jardin qu'il faut travailler. Et avec cela vient tout de suite une question que Thérèse s'est posée, que j'ai évoquée un petit peu plus tôt. Oui, mais puisque Dieu est capable d'arroser ces fameuses fleurs, es un huerto. Donc un huerto, c'est vrai que c'est un verger, c'est aussi un jardin, on peut discuter. Je ne pense pas que Thérèse pense à une plantation de concombres. C'est plutôt un jardin d'agrément, puisque précisément on nous dit que c'est là que notre Seigneur va venir se délecter. Il s'agit de nous, il s'agit de notre personne. Alors, parenthèse, je vais revenir sur ce que je viens d'interrompre. J'insiste là-dessus, le jardin en question, c'est la totalité de notre personne, c'est pas seulement notre conscience, c'est pas seulement la partie consciente de la présence de Dieu, bah, qui d'ailleurs est toujours un effet de la grâce, hein, de soi on peut pas prendre conscience de la présence de Dieu, c'est pas seulement ça, c'est la totalité de notre être qui réjouit Dieu. Et je le souligne parce que ça, c'est un sacré point de conversion. Parce que croire de notre part que tout notre être, corps, cœur, esprit, imagination, mémoire, affectivité, histoire, tout, la totalité de notre être, et le fait qu'il soit un, soit vraiment celui, celle que Dieu aime, c'est pas gagné d'avance. Thérèse le dit, c'est drôle, je suis tombé dessus par hasard, elle le dit au chapitre 32e du livre de la vie, on est plutôt vers la fin. Je vous le traduis. Il est tellement clair que vous m'avez aimé, vous, bien plus que je me suis aimé moi-même. Au chapitre 32, elle fait un petit peu un petit retour, hein, elle est en train de parler de la fondation de Saint-Joseph, normalement, chapitre 32, elle dit « Como se ha parecido que me queréis vos mucho más a mí que yo me quiero. » Alors, c'est moi qui vais traduire en français de chez nous. « C'est donc bien clair que vous m'avez aimé tellement plus que je me suis aimé. Hein, » c'est pas « Vous m'avez aimé tellement plus que moi je vous ai aimé. » C'est « Vous m'avez aimé tellement plus au travers de tout ce que j'ai traversé. » que moi je me suis aimé. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. Tout ce qu'on dit d'habitude, et bien évidemment, c'est le propos de Thérèse, et Thérèse d'ailleurs, elle part là-dedans. Hein. Tout ce qu'elle veut, c'est aider les âmes d'horizon en disant, regardez, il y a bien des façons d'arroser le jardin. Il reste que le propos premier, c'est bien d'arroser le jardin. Et alors Dieu a mille et une façons de se réjouir avec nous, ça nous étonne, mais c'est comme ça, de se plaire, à se faire présent à nous. Il reste que le lieu premier que Thérèse a souligné, c'est ce fameux jardin. Et il y a comme une espèce de rapport indirect dans l'effort. C'est-à-dire que nous faisons effort pour que ce jardin ait un petit peu d'allure, mais en fait, on est en train de réaliser que c'est quand même Dieu qui fait le mieux. Vous vous souvenez que la quatrième façon d'horizon, c'est quand même d'attendre qu'il pleuve, là. Donc ça, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est pas nous qui faisons pleuvoir, malgré toutes les danses du monde. Il reste que c'est le jardin qui recrée Dieu. Donc c'est tout ce qu'on peut concevoir d'un jardin dans sa fraîcheur, sa beauté, sa variété, sa luxuriance, etc., son côté foisonnant. Hein, souvenez-vous de ce qu'on partageait la première soirée de cette magnifique vision qu'on a dans le film Le chemin du pardon. Hein, à courte vue, ce jardin, c'est « it's quite the mess », dit Mac à l'Esprit-Saint, sauf que quand on fait un zoom arrière, c'est à la fois très luxuriant, puis il y a des dessins qui se dégagent, c'est magnifique. Ça, c'est notre être. Et j'insiste là-dessus ce soir, l'oraison, c'est pour que le jardin soit vert. Ça change un tout petit peu les choses par rapport à l'oraison, c'est pour la présence de Dieu. Du reste, c'est souvent un mur contre lequel on se cogne, parce qu'il y en a pas mal qui disent « bah oui, mais moi j'aime beaucoup faire oraison, sauf qu'il y a bien des moments où je n'ai pas le sentiment que ce soit la présence de Dieu. Pourtant, je fais oraison. » Je reviens sur ce que disait, j'avais laissé cela en suspens, je reviens sur ce que Thérèse dit, bah, il n'empêche qu'il y a bien des fois, on remonte le seau, il est vide, et Dieu est capable d'arroser les plantes autrement, tellement autrement qu'on ne le voit même pas. Gageons que c'est par la nappe phréatique. La conséquence, c'est qu'on peut se poser la question, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, mais alors dans ces conditions, est-il utile de faire oraison, puisqu'il n'y a pas d'utilité à faire oraison comme telle ? On revient souvent à la même question. Or, il me semble que il est impossible de dire pourquoi il faudrait persévérer dans l'oraison. Bah, ce que je dis là, on se l'est déjà dit, on pourrait le redire souvent, il n'y a aucune logique qui ferait de la persévérance dans l'oraison une obligation ou une stratégie intelligente. Parce qu'il est quand même conseillé de persévérer dans l'oraison, je veux dire par là, ceux et celles qui commencent l'oraison, enfin je me souviens pour ma part, quand j'ai commencé 5 minutes par jour, il fallait quand même que je l'écrive sur mon agenda pour le faire. Puis au début, ce n'est pas évident. Il y a quand même quelque chose qui s'en vient, il y a un certain sens de l'oraison qui se dégage à faire oraison. Mais précisément, et je lis à cause de ce que j'ai tâché d'avancer durant cette rencontre au sujet de ce jardin qui finalement est au centre de l'oraison, plus que la présence. La présence aura lieu dans le jardin. S'il n'y a pas de jardin, il n'y aura pas de présence. Il y a dans le fond une force, il y a une vérité de l'être qui ne répond pas à nos logiques, qui n'est pas le fait, qui n'est pas la conséquence de nos logiques. Et pour prolonger dans ce sens, nous ne savons pas exactement à l'avance comment nous tenir, comment nous comporter pour être vraiment à notre authentique profondeur. Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Et d'autre part, c'est quasiment le revers de la même médaille, d'autre part, il nous semble bien que si dans l'oraison, il y a un certain nombre de choses qui sont de notre ressort, qui semblent parfois ne pas porter de fruits, et c'est tout ce que Thérèse met du côté de l'entendement. Hein, l'entendement, chez Thérèse, c'est pas la raison, c'est beaucoup plus la chose. Dans le fond, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous de manière consciente et volontaire durant l'oraison. Tout ce que nous faisons, mais cet entendement, chez Thérèse, cette activité de l'entendement, elle voit très bien qu'il y a des moments où elle continue de tourner, mais il y a quelque chose de plus profond qui est présent, Soit elle dit, ben lui-même, l'entendement, il finit, elle a cette image, quelque part, je ne sais plus où. Il est aussi stupide qu'un petit âne qui broute. Je ne sais pas trop où il va, il se contente de brouter ce qu'il a devant lui, le fameux entendement. Il y a plus profond et plus, de manière plus à la base de toutes nos activités intérieures, il y a nous-mêmes, il y a notre être. La fois passée, j'évoquais cette image. Qui a dû en attenir plus d'un, de la capacité des anciens sous-marins à se poser sur le fond. J'aurais pu me contenter de dire que certains poissons le faisaient, parce que c'est vrai aussi. Hein. Il y a des poissons, c'est rare, mais il y a des poissons qui se reposent sur le fond, figurez-vous, c'est très étonnant. Vous pouvez le voir, hein, c'est des choses que j'ai vues, c'est pas des choses que j'ai lues. Et on les réveille, entre autres, les épinoches dans les petites rivières. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il s'agit vraiment pour Dieu d'agir en faveur de notre être, nous réapprenons à être et nous ne savons pas exactement comment nous y prendre. Et il est tout à fait probable que, entre autres, le temps passé dans l'oraison, ce temps étonnant, pourquoi l'oraison doit-elle être si longue alors que Dieu est capable de faire des choses en claquant des doigts, y compris la création du monde? Il est possible, c'est une piste que je donne là, comme elle n'est pas que de moi, je me permets de l'avancer. Il me semble qu'il y a pas un rapport au sens d'un rapport qu'on pourrait mesurer, mais il y a quelque chose de consonant entre ce fameux temps passé et ces profondeurs de notre être. On le sait déjà en poésie, en fait, on ne sait pas exactement comment être pour être avec le monde tel qu'il est. C'est quelque chose qui revient très souvent en poésie. Nous ne savons pas comment être. À quelle vitesse faut-il être, à quel rythme faut-il être devant un paysage? Pas besoin d'avoir fait un doctorat pour saisir qu'il y a là quelque chose d'un peu mystérieux et qui nous convoque, quant à notre être. Des enfants comprennent cela. Plein de personnes comprennent cela. Il y a quelque chose de similaire dans l'horizon, sauf que le paysage, on ne le voit pas. Le beau coucher de soleil de chez mes parents, là, qui porte à 50 km de distance facilement. On ne le voit pas. Mais notre être à nous est sensible à la présence de Dieu. Parce que Dieu veut que notre être y soit sensible. Et le réapprentissage ou l'apprentissage tout court de notre être à être nécessite peut-être bien, j'incline à le penser, ce temps qui n'est pas un temps mesurable, qui est pas un temps comme la cuisson du pain, 35 minutes, sortez votre pain, sinon il va être trop cuit là. À 435 degrés, ça marche. C'est pas un temps qui mesure un processus. Nous sommes vraiment à profondeur d'être. Alors, j'ai déjà bien rallongé. Je conclus là-dessus et je vous invite à l'occasion à aller relire ce fameux chapitre 11 du livre de la vie, au paragraphe 6, et d'entendre. Il y a une très belle traduction, effectivement, qui vient de sortir, qui est disponible aux éditions du Carmel, disponible au couvent des Carmes aux Trois-Rivières, disponible à la vente à distance. Le livre des miséricordes, en plus, c'est comme ça qu'il a été titré à juste à bon escient. Relire ce fameux passage que souvent nous prenons, et c'est normal parce que Thérèse l'a aussi écrit comme ça, comme le point de départ d'un développement très riche, très généreux, très intéressant, très inspirant. Sur bah, une façon assez concrète, des façons assez concrètes de se comporter dans l'oraison, le relire un petit peu différemment en se disant oui, mais tout ça, c'est pas pour tenter de défiler et espérer attraper la présence de Dieu comme on attrape un papillon. C'est foncièrement pour arroser le jardin. C'est pour ça. Et le jardin, c'est moi. Et je vais apprendre, peu à peu, ça va être la suite de nos rencontres, j'espère. Apprendre peu à peu à reconnaître que ça pousse et que la première chose qui pousse, c'est des fleurs. C'est quand même beau. C'est une belle chose. C'est pas des choses qui sont. Bon, vous allez me dire, on peut vendre des fleurs. Hein. Mais c'est pas des fruits. Hein. Lorsqu'elle parlait, c'est pour ça que j'ai commencé par cette citation. Hein. On lui donne. Il semble que nous lui donnons tout, pardon. Mais en fait, nous offrons à Dieu, nous donnons à Dieu la rente et les fruits. On se garde le capital. Sauf qu'elle ne parle pas de capital, elle parle de la racine et la possession. Ben, la possession, c'est le capital. Je relis cela. Hein. S'il nous paraît que nous lui donnons tout, la vérité, c'est que nous offrons à Dieu le rendement, les fruits, et que nous gardons la racine et le capital. Mais la première chose que produit la racine, c'est pas des fruits, c'est des fleurs. Et elles disent quelque chose des racines qui sont, elles, bien en terre. Elles disent quelque chose de cet être qui est en train de se transformer.
Et là, elle goûte un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure.
Vous avez écouté la troisième rencontre des soirées proposées dans le cadre de l'école d'Oraison par Zoom et intitulée « L'Oraison, racines, fleurs et fruits ». Pour participer à la soirée, qui comprend un temps de prière en commun puis un enseignement suivi d'un temps de questions, écrivez-nous à écoleoraisonzoom, tout attaché, à commercial@gmail.com. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel sur le site www.lecarmel.org. La poésie « Pour toute la beauté » de Saint Jean de la Croix est mise en musique et interprétée par frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.
Aucune saveur parmi toute la création, seul sans mémoire ni figure, sans le moindre appui quel qu'il soit. Il découvre un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Et ne pensez pas qu'en son cœur, où sont cachés tous les trésors, il trouve joie et réconfort dans ce qui donne ici la saveur. Ni passé, présent, ni futur, toute beauté passée déjà. Là il goûte un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Cherche à s'avancer, mettra davantage de soin dans ce qui est encore loin qu'en ce qu'il a déjà gagné. Aussi pour une hauteur plus sûre, je préférerais aller là où m'appelle un je ne sais quoi.